Audiolib présente Le roi et l'horloger d'Arnaldur Indridason, traduit de l'islandais par Eric Bourri, lu par Jérémy Bardot. Ô malheur à ceux qui de dogmes odieux profitent pour se servir et prospérer. Psaume de la Passion, Algrimur Peturson, 1614-1674. Chapitre 1. Le temps s'était arrêté. Le chef-d'œuvre, façonné à la gloire de Dieu et de la Vierge Marie 200 ans plus tôt, n'avait, de mémoire d'homme, jamais sonné les heures du jour et de la nuit, ni indiqué les phases de la lune ou la course des planètes. Ce butin de guerre, acquis lors d'un conflit oublié depuis longtemps, reposait sous une épaisse couche de poussière dans une remise du palais royal de Christiansborg. Les monarques et leur règne avaient passé sans que le temps reprenne sa course. On avait jadis convoqué les savants et maîtres ouvriers les plus brillants pour examiner cette horloge et tenter de restaurer son mécanisme. Mais tous avaient fini par renoncer, convaincus qu'en dépit de sa grande beauté, plus jamais elle ne sonnerait les heures ni n'afficherait les mouvements des corps célestes. Il en était allé ainsi jusqu'au jour où un horloger vieillissant, propriétaire d'une échoppe près de l'îlot de Slotsholmen, où se trouvait le château royal de Christiansborg, fut convoqué au palais pour y examiner une pendule. Le créateur de la sublime œuvre entreposée au château des rois de Danemark n'était pas un inconnu pour l'artisan qui, dans sa jeunesse, avait entendu parler de cet homme, le compagnon horloger chez qui il avait fait son apprentissage à Copenhague, lui ayant raconté son histoire. L'artisan savait depuis longtemps que cette merveille n'était pas une horloge ordinaire. Elle avait été conçue par Isaac Abrecht, un Suisse qui avait passé la plus grande partie de sa vie à la cathédrale de Strasbourg, où il avait élaboré la grande horloge qu'on admirait dans le monde entier. Celle-ci marquait non seulement le passage du temps avec ses aiguilles, mais elle indiquait également les jours de la semaine et les mois. Qui plus est, les trois rois mages en sortaient toutes les heures pour aller se prosterner devant la Vierge, ensuite résonnaient les notes d'un psaume désormais oublié datant de l'époque de son concepteur. Pour couronner le tout, littéralement, un coq doré se dressait au sommet de l'ouvrage et signalait le début de chaque nouvelle heure par son chant et ses battements d'ailes. Cette féerie s'accompagnait du défilé des planètes et des astres quand le mécanisme fonctionnait bien. Assemblé en l'an de grâce 1592 et âgé d'environ 200 ans, ce prodige était considéré par la plupart des compagnons horlogers comme un objet pour ainsi dire surnaturel, un Graal relevant de la magie plutôt que comme une création humaine. Quand le vieil artisan se fut acquitté de sa besogne consistant à réparer une pendule posée sur la cheminée du cabinet d'un des secrétaires du roi, il déambula dans les couloirs du palais vers l'endroit où on lui avait dit qu'était remisée la vieille horloge. Dans sa jeunesse, son maître d'apprentissage, disparu depuis longtemps, avait lui-même tenté de la remettre en état, mais il avait fini par renoncer. Ce dernier avait toutefois conservé des croquis, des dessins et des notes qu'il avait laissé en héritage à son ancien apprenti, ce qui n'avait fait qu'aiguiser davantage sa curiosité. Plutôt distant, le régisseur l'écouta formuler sa requête, étonné que cet homme originaire de la lointaine Islande s'intéresse autant à une vieillerie. Il l'autorisa néanmoins, avec bienveillance, à l'examiner. L'horloger le remercia très humblement, puis se fraya un chemin à travers les tableaux, les objets d'art, les butins de guerre, les bustes des anciens monarques, armoiries, oriflammes, harnachements et antiques cages à faucons, jusqu'au coin où se trouvait la fameuse horloge. Il retira prudemment la pièce d'étoffe poussiéreuse qui la protégeait, en veillant à ne pas endommager l'œuvre plus qu'elle ne l'était déjà. « Précaution inutile », pensa-t-il en découvrant le désastre.